Françoise Tressart et la belle équipe pour un numéro des Papous mi-public, mi-privé. Côté privé, l'ambiance douillette de notre studio de la Maison de la Radio avec le jeu des suppositions, les drôles d'épistoliers entre peinture et maréchaux d'Empire et le DLA pour les experts Dominique Muller, Eva Almassi et Jacques Vallée. Côté public, suite et fin de notre enregistrement à l'ENS de Lyon le samedi 2 avril dernier. Décor, l'amphimérieux de l'École normale sup de Lyon, plein d'étudiants ou pas, d'adultes confirmés, de jeunes enfants avec parents. Un bon mélange bien vivant. Et sur scène, les papous Odile Conseil, Serge Joncourt, Patrice Caumont, Patrice Delbourg, Lucas Fournier, Gabriel Godard, Patrick Beignet et tout près de nous à peine un mètre pour l'enregistrement, Pierre Mine, Anne de Pelchin, Étienne Leroy, Gilles Manet et Roland Dandalex. Regardez les photos sur la page Facebook des Papous et sur franceculture.fr où vous pouvez télécharger l'émission pendant un an. Après le pamphlet contre les poussettes sur les trottoirs, le roman Shakespeare et ses sœurs, des histoires façon défilé de mode ou cure de remise en forme avec les 10 mots du public, dont le fameux, l'improbable Latanier, j'en passe, les homophonies grondements de la montagne, notre finale, expert faussaire en plein Châteaubriand. Reste à découvrir une page de Publié Papoucité et les grands airs des airs de repos. Les Papous à l'ENS de Lyon, troisième partie. Une page de Publié Papoucité sur France Culture pour des papous dans la tête. Alors, le maître S. Publié Papoucité, c'est Patrice Caumont. Il les écrit comme il respire. D'ailleurs, c'est un ancien publicitaire, Patrice Caumont, également ancien philosophe. Enfin, il est ancien beaucoup de choses.
Il est ancien, quoi. Il est ancien.
Donc, c'est une Publié Papoucité pour réviser les auteurs américains. Pour vous donner la réplique, Odile Conseil et Patrice Delbourg. Et puis, les chansons par Gabriel Godard. La 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 la.
Jambon beurre se meurt, fast food le boude.
La baguette droite, c'est fini. Le hamburger est circulaire, le sandwich triangulaire.
La sauce américaine a chassé l'armoricaine. C'est plus le pays des merveilles d'Alice, c'est la chasse au snack.
Tout devient big ou maxi. On avale le pop-corn à plein seau, l'ice cream par baquet. La frite ne débarque plus en barquette, mais en cargo.
Et l'on avale un soda où flotte plus de glace qu'il n'en reste au pôle. C'est le degré zéro de l'habitude.
Trop souvent, l'ennui mène à la boulimie et l'amorosité à l'obésité. Il faut donc se distraire pour ne plus s'empiffrer.
Chez Tex-Mex, votre nouvelle chaîne de restaurants, nous protégeons les foodingues de fooding, les fast and furious du snacking, avec un vrai concept, lire plus pour manger moins.
Qui son livre dévore, son assiette picore. Il faut bouquiner en mangeant.
Avec Tex-Mex, less cook, more book. Lire à table n'est plus mal élevé, c'est un must.
Les taches de gras vont sur les pages, pas dans les artères.
Tex-Mex, c'est la seule enseigne qui unit littérature et friture.
Et le littéraire éclaire le culinaire. Fini le lipide fadasse. Bye bye, Columbus et cholestérol. Bonjour, les recettes d'esthètes d'esthètes et les grillades en pléiade.
Tex-Mex propose des livres brochés à la broche, reliés en sauce et même des livres pochés.
Les happy hours, pour le best, c'est l'heure. Et même William, c'est l'heure.
Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, du Kerouac pour mon hamburger. Lisez-moi, madame, s'il vous plaît, du John Irving ou du Chandler. J'oublierai vos Quick McDo et autres Burger King. C'est une question de gros lard, une affaire de pudding. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, des caramels plutôt sans beurre. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, des books, oui, mais des Pulitzer. J'boufferai de l'Irving en 4 quarts et même du Stephen King. C'est une question de carambar, pas de Tao Te King.
Chez Textmex, pour sauter un repas, sauter des pages.
Si vous êtes plutôt country, commandez sur le champ un traditionnel Whitman aux herbes de prairie.
Si vous êtes plutôt folk, c'est Faulkner qu'il vous faut. La cuisine du Sud, ça se déguste. On a un repas goûteux, plein de fruits et de pur beurre.
Steinbeck propose des souris d'agneau et des omelettes. Et surtout sa fameuse tortilla plate.
Avec Tennessee Williams, c'est la tarte sur un plat brûlant ou les merlus au raisin servis en colère.
Avec les tacos Dos Pasos, n'oubliez pas la sauce Piquillos. Et vous verrez, pour Manhattan, c'est le transfert.
On m'a vu dans le drugstore croquer un livre épique. Plein de métaphores, c'est Moby Dick. J'ai fait la course à la baleine. J'ai lu Melville, j'ai lu Ernest. Poisson pané.
À la place d'un gros dessert, t'as pris un livre épais. Un gros bouquin sanctuaire. C'est riche mais moins sucré qu'un gâteau. La nuit je m'engloutis des mille feuilles de pages. La nuit je mange, je m'enfile des choux. Je m'empiffre avec des éclairs de génie. J'aime lire et relire Le Corbeau. Pas pressé de finir mon pot.
Chez Tex-Mex, fini les pancakes. Vive les crêpes à la chandeleur.
Nos œufs à la neige, façon Jack London.
Le topic du pop-corn, Henri Miller. C'est plutôt barbecue et chaud de vent. Et ça se sert à l'anis Nin.
Follow the Hemingway way. Dis adieu aux larmes de whisky. Car le vieux rhum est amer et le Bukowski bourbon te bourre pour de bon. Alors Paul, sois austère au dessert. Et Philippe, rote à table, chez Tex-Mex, c'est sans complexe.
Et si tu prends un dernier petit kérouac pour la route, tu sais plus qui t'es.
D'ailleurs, t'es qui, là?
Aujourd'hui, j'ai dévoré tendre la nuit, oh, 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 oh. Aujourd'hui, chez Tex-Mex, au repas de midi, j'ai grignoté le même Faulkner, Hemingway c'est beaucoup trop amer, et pour qui sonne le glas. Aujourd'hui, j'ai avalé le tome de délices, oh, 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 recuit. Je préfère la sauce Ambrose Bierce, gobet saignant un pavé d'Elroy. Question régime, c'est plutôt Destroy. C'est pas de l'eau de source, Sandri.
Qu'est-ce que tu bouffes à midi?
Un pôle bol de riz.
Prends-tu ta pizza Da Vinci?
Non, j'ai pas le code. Aujourd'hui, j'ai dégusté un gros Melville au champ de baleine. Me suis tapé toute la compile. Quand je l'ai lu, j'ai su que c'était lui, le Chip Chandler, le roi des fish and chips. Vraiment born to be Fritz. Aujourd'hui, jusqu'à la lie. Oh, 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 ketchup, au tabasco, les calories.
Vous écoutez France Culture, les papous dans la tête, et on continue avec Serge Joncourt et un grand air, des airs de repos. Souvent j'en vois comme ça un papou sur les routes et même sur les autoroutes pour enquêter sur certains noms de lieux qui sont un petit peu mystérieux. Et là je vous ai demandé d'enquêter sur l'air de Coué. Coué, C-O-U-E, accent aigu.
Coué.
L'air de Coué. Oui, vous dites Coué.
Enfin,
il y a deux œufs, quoi. Alors, comment ça s'est passé ?
Oh, bah, écoutez, l'air de Coué, déjà, j'ai essayé de la situer un peu.
Hein. Oui.
L'air de Coué, donc, c'est sur la 6, autour du soleil, au-dessus de Vézelay, vers l'Avallon, vous voyez, 47 degrés nord, voilà. Alors, vous n'ignorez pas que je suis un moderne, si bien que quand vous m'avez confié la mission d'enquêter sur l'air de Coué, de voir à quoi elle ressemblait, plutôt que d'aller sur place et de me gâcher le week-end en kilomètres aller-retour. J'ai bien évidemment regardé sur Google Earth pour la déflorer, cette air. Mais ce jour-là, chez moi, pas rien à faire, pas de connexion. Alors bon, pas de panique, parce que je dis, on va y arriver. Même si, en l'occurrence, la seule façon de vraiment y arriver serait peut-être d'y aller. Oui, parfois,
C'est pas bête.
Ça peut être plus simple de se rendre directement sur place pour visiter un site plutôt que de simplement le googliser. Bon. C'est vrai qu'il peut y avoir plus d'intensité à éprouver réellement les choses plutôt qu'à les regarder sur Internet. Mais enfin, bon.
Ça se discute.
Ça se discute, oui. Là-dessus, bon, pas de bol, la Wi-Fi remarche. Je googlise donc l'air de Coué, histoire de m'épargner le trajet. Et là, aux merveilles, je tombe sur un petit domaine splendide. Vous savez, quand on voit au-dessus, là, une aire douillettement nichée au cœur d'un épais massif forestier, en bordure de l'autoroute du Soleil, entre le Val de Touchebœuf et la vallée de la Farge.
Il y avait des lataniers.
Un pur Éden, probablement. J'ai une bonne connexion, mais enfin, peut-être pas au point de... Pas de construction, pas de maison, mais des hectares de bois de prétendre, des collines souriantes, un vrai petit îlot de verdure. Un peu en retrait, vous voyez, de l'autoroute A6. Du coup, je zoome pour voir. Et là, des pelouses fraîches, immaculées, des tables de pique-nique autostables, des toilettes neuves. Le paradis.
Oui.
Oh, ça donnait envie. Là, je me suis dit, il faut que j'y aille. Il faut que je me lance plein sud et que j'enseigne gaiement les péages pour prendre l'air. Quoi. Seulement, comment vous dire, il y a une petite donnée que je... Vous avez caché, c'est que, primo, j'ai plus de points sur mon permis.
Aïe.
Et deux jours, j'ai pas de voiture.
Bon,
pas de panique, on va y arriver, je me suis dit. Alors, j'ai téléphoné à un ou deux amis, je veux dire des amis qui ont encore une voiture et des points sur le permis. J'en ai trouvé deux. Mais allez savoir pourquoi, ils n'étaient pas enchantés par l'idée de faire 6 heures d'autoroute pour visiter une aire de pique-nique.
Ah, mais c'était pour une enquête quand même, très sérieuse, non, pour France Culture.
Les gens manquent de... je sais pas...
D'imagination.
Peut-être, oui. En gros, ils déclinèrent. Bon, bah écoutez, pas de panique, je me suis dit, on va y arriver. Alors là-dessus, j'ai jeté un œil à mon vélo que je garde là-haut sur le palier, à l'étage, à Paris. Mon vélo qui avait l'air de me dire... On va y arriver. On va y arriver, mais non. 600 km aller-retour à la pédale. Non, je le sentais pas. Alors, quant au train, la première gare, Google Earth, est à 90 km de l'air. Et le premier aéroport est à 2 heures de route.
Il y a des taxis. Non.
On va y arriver. Non, mais si je vous avais présenté la note, même pas. Alors, c'est là que m'est revenu. Je suis un moderniste. Peut-être même un contemporain. Et du coup, m'est venue l'idée géniale de me rabattre sur un processus à la mode. Et puis, pris par une furieuse envie de faire comme tout le monde, j'ai donc passé une annonce sur plat placard.
Ben voilà.
Oh là là. C'est vrai que 2 heures après, j'avais 18 propositions. Des gens prêts à me parachuter sur l'air de Coué. Alors, en beau néophyte, j'ai épluché les annonces. Je débute, évidemment. Et là, je tombe sur celle de Turbo Fredo 21. Le nom me plaisait. Turbo Fredo... Oui, voilà, c'est un petit a priori. Mais ça, Turbo Fredo 21 qui annonce qu'il va sur Avalon, juste en aval de Coué, donc un peu avant. Hein. Alors, d'un mail, je lui demande s'il est prêt à faire le crochet pour me déposer sur l'air. Pas de problème, c'était carrément une aubaine. D'autant que les autres covoitureurs étaient bien trop matinaux et me proposaient tous des départs à 6 heures du matin. Alors que Turbo Fredo 21 affichait, lui, un départ à 11h45 du matin pour une arrivée, tenez-vous bien, à midi. Ah oui!
Ah ouais? 600 km
ah
plus loin?
Ah oui, 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 vous vous rendez compte? 15 minutes pour faire les 300, puisque. Hein. Autrement dit, j'ai fait un petit calcul.
Ouais.
Il allait trois fois plus vite que le TGV, et à peu près, il mettait, si vous voulez, à peu près le même temps qu'aurait mis un avion s'il y avait un aéroport dans le périmètre de la Coué.
Et ça vous a pas inquiété?
Une aubaine. Non, bah non, non, justement, au contraire. Au contraire.
Oui.
Je lui fais très vite un mail de confirmation pour pas qu'il me pique l'op. À Turbo Fredo 21, donc je lui dis que c'est le trajet. Et là, je reçois une réponse, tout ce qu'il y a de protocolaire, hein, c'est un peu sèche. Salut Sergio 75, nous partirons à l'entrée parking Mercure, sortie 7, bord de Rocade, à Charenton-le-Pont, devant le crayon géant. Attention, deux points, trajet avec une halte à mi-parcours. Aucun arrêt pipi. Salut. Wow. Alors, certes, il n'y mettait pas les formes. Hein, En même temps, je me suis consolé en me disant que finalement, quand on prend le train, c'est encore pire. On peut même pas écrire au conducteur de la motrice la veille pour savoir à quelle heure on se retrouvera. C'est... Non, d'une certaine façon, c'est vrai que ça humanise de pouvoir communiquer avec son chauffeur. C'est... D'autant qu'en fouillant un peu le profil de Turbo Fredo 21, j'ai découvert que c'était, très bon point, non-fumeur, qui ne prenait pas les chiens, pas les enfants, qui n'aimait pas la musique et qui discutait selon envie, selon la forme. Le parfait antipathique, mais ça m'allait.
Ça vous a pas découragé,
non,
non.
On va y arriver, je me suis dit, on va y arriver.
Non, mais c'est une méthode.
Du coup, le samedi, j'ai pris un petit taxi pour aller jusqu'à la Rocade, sortie 7 devant le crayon géant à Charenton-le-Pont. Et là, je réalise que le rendez-vous qui m'a fixé, eh bien, en amorce de l'autoroute, mais l'autoroute de l'Est, pas du Sud.
Bon, ah, c'est embêtant.
L'astuce, sans doute. Oui. Alors, le taxi me dépose... Sous la pluie, bon, devant le crayon. Et là, Turbo Fredo 21 arrive avec 3 minutes de retard. Bon, hein, rien de grave. Et avant même de se dire bonjour, je le vois qui râle à cause de mes grands sacs.
Mmh.
Oui, j'avais préparé un pique-nique.
Ouais, tu es sandwich.
Et puis dans l'autre, oui, un peu plus que ça. Et puis dans l'autre, il y avait la quechua avec le réchaud à gaz.
Pour passer la nuit là-bas. Ah,
oui, oui, parce que ça avait l'air pas mal.
Oui, oui.
Oh, pour les deux sacs, il fallait me prévenir, qu'il me dit. Mais bon, de toute façon, il n'y a plus le choix. Du coup, bon, on les a mis, les sacs et les miens, sur le toit, au-dessus du piano.
Ah, parce qu'il y avait un piano.
Oui, alors bon, oui, en fait, il y avait un piano sur le toit.
Oui.
Mais un piano droit, je vous rassure.
Ah bon, oui.
Oui, non, non.
C'est
non.
Mieux, oui.
Enfin,
oui.
C'est vrai que ça intrigue un peu.
C'était
quand même.
Ça, la petite halte à mi-chemin.
Mais, non, c'est un piano.
Il avait déposé le piano.
Tout bonnement, un piano. Ah, en même temps, je me suis souvenu qu'il n'aimait pas la musique. Donc, une chose était sûre, il ne jouerait pas pendant le trajet. Alors, on cale mes vivres depuis le piano, on attache le tout, on ouvre la partie en direction de l'autoroute de l'Est vers Sedan, qui me dit. Sedan. Alors là, je tombais des nues, je fis part de ma désapprobation à Turbo Fredo 21. J'avais aucune envie de passer par Sedan pour aller à Avalon. Et là, il me dit que sur l'annonce, il avait bien précisé qu'il y avait une halte. Oui, bah oui, non, bah oui, d'accord, mais enfin, il fallait me demander où. Quelle mauvaise foi.
Oui,
on va y arriver. C'est là qu'instantanément, visité par une sorte de gigantesque intuition, je compris comment, en partant à Paris à 11h45 du matin, il pouvait être surcoué à midi. Effectivement, il y serait à midi. Oui, le lendemain, oui.
Ah, bravo, vous aviez deviné.
L'enfer. Oui, je leur ai raconté déjà.
Ah,
oui. Enfin, non, mais vraiment. En plus, le piano était mal fixé. Il a fallu s'arrêter 3 fois pour le remonter sans écraser mon pique-nique. On va y arriver. Alors, on a déposé le piano chez la grand-tante de Turbo Fredo 21 qui habitait une HLM en banlieue de Sedan, au 6e étage. Et vu que le piano était trop lourd pour l'ascenseur, on l'a monté à la main. Enfin, je veux dire à pied, mais avec les mains et puis les pieds. Avec Turbo Fredo 21, seulement, malgré son pseudo de winner, au bout de 3 étages, il était cuit, Turbo Fredo. Épuisé. C'est même moi qui ai dû lui regonfler le moral, parce qu'on n'y arrivait plus avec le piano. On va y arriver, Turbo, on va y arriver. Le soir, on était tellement fatigués qu'on s'est endormis comme des masses. Moi, dans la voiture, et lui, chez la grand-tante, on est reparti le lendemain matin à 7h. Et c'est vrai qu'à midi pile, on était sur zone. À midi pile, il me dépose sur Coué.
Ouais. Et alors, c'est comment Coué?
J'avais bien mérité celle-là. Il faisait beau, en plus. Alors, tout content, je me pose comme ça au milieu de l'air pour voir de quoi elle avait...
L'air.
Oui. Et surtout pour essayer de comprendre pourquoi diable l'air de Coué s'appelait Coué. Et là, un peu dubitatif, je vois qu'arrive par la bretelle d'accès, si vous voulez, une voiture, mais une voiture qui avançait à deux à l'heure. Il n'y avait pas de chauffeur dedans, ni de passager. Une grosse Peugeot 506, vide, et qui venait pourtant vers moi, en s'avançant doucement. Étrange, quand même. En arrivant à ma hauteur, je compris qu'en fait, elle était poussée par un gars, le pauvre vieux, en âge. Bon, moi, humain, je lui dis, vous êtes en panne ? Oh, à peine, qui me fait, mais c'est normal. Je m'en sers pas de la semaine, alors le samedi, elle est toujours un peu lente à démarrer. Bon, d'accord, je comprends. Et vous la poussez depuis où ? Oh, porte d'Italie, qui fait, mais... Vous en faites pas, elle va y arriver. De toute façon, je vais à Mâcon, je fais juste un arrêt pipi, puis je repars, pas de problème, monsieur Jonco. Oui, il m'a reconnu. On va y arriver, qui fait, on va y arriver. C'est pas pour rien que l'air de coué s'appelle coué, qui fait. J'ai pas compris. Et puis là-dessus, il me fait une petite tape sur l'épaule, comme si c'est moi qui étais dans la déveine. Il était bizarre, ce type. Il y a peut-être un sous-entendu. Et c'est alors que je vis le gars de la DDE qui débroussaillait les abords. Avec un coupon, là, un type habillé tout en jaune et vert. Et je vais vers lui, histoire d'engager. Là. Pardon, mon brave, vous travaillez pour l'autoroute ? En quelque sorte, oui, je suis point d'ici, je suis de Saint-François, à 5 km. Ah, ils ont des sens.
Ils ont des accents aussi.
Hein. Un fort accent morvandiau. Mmh, mmh. Bien, soit, mais dites-moi, mon brave, l'air de coué, sauriez-vous me dire pourquoi l'air de coué s'appelle l'air de coué ? L'air de coué ? Oui. Eh bien, oui, l'air de coué. Pourquoi s'appelle-t-elle coué ? Le coué, mais laquelle ? Oh, bon sang, j'avais un mal fou à me faire comprendre avec l'autochtone, c'est pourtant pas loin.
C'est pourtant
de...
simple,
oui, non, mais c'est le Morvan quand même, c'est pas non plus. Et là, je vois le gars à la 506, ben, il a fait ses affaires, hein, qui repartait la bretelle pour se lancer vers Avalon, qui fait un bras moqueur avec un clin d'œil comme ça dedans, il fait « Tu vas y arriver !» Il est parti, j'ai pas... Alors maintenant, vous dire pourquoi l'air de coué s'appelle l'air de coué, je saurais peut-être un jour, j'y retournerai.
Oui, s'il vous plaît. Lucas Fournier, Sergent Co a fait l'enquête et vous, je vous ai missionné pour écrire le grand air de l'air de Coué, parce que les grandes et belles aventures méritent des grands et beaux chants. Alors vous, bon, vous n'êtes pas vraiment chanteur, hein, mais vous avez quand
amateur,
même
seulement.
Un organe assez intéressant, des beaux graves et quelques aigus.
Oui.
Donc c'est vous qui avez écrit la chanson et qui allez la chanter sur quel air ?
Alors j'ai pris un très grand air,
ouais.
C'est Conte partiro.
C'est ambitieux.
Chanté d'habitude par Andrea Bocelli.
Ouais.
Et donc on va y arriver, tous ensemble d'ailleurs. Et vous allez m'aider en faisant les chœurs, pas en disant les paroles, mais comme ça. Vous
à
allez voir,
moment...
je vous ferai un petit signe et ça se passera très très bien, on va tous y arriver ensemble.
D'accord.
On essaye de partir ensemble et... Quand on n'a pas la chance de savoir bien conduire sa bagnole, pour partir en vacances à une allure folle, on va sur Internet espérant que cette fois-ci ça colle. Vers Coué, l'air de repos, on va tous un jour y arriver. On va y arriver, à pied ou en auto, à Coué, l'air de repos, via Sedan ou à Vallon, on ira sans piano, à pied ou à vélo. Vers Coué, quand vrombit le moteur en sortant du garage, quand à 40 à l'heure on dépasse le péage, alors tout est facile, le bonheur sans nuage. À Coué, l'air de repos, on va tous ensemble y arriver. On va y arriver,
Ce sera le bingo à Coué, l'air de repos. Même Jean Cour, il a trouvé. Oh, petit arrivé, à pied ou pédalo, à Coué, l'air de repos. Même Jean Cour, il a trouvé. On peut tous arriver à pied ou pédalo, à Coué, à Coué, l'air de repos. À Coué.
Les papous en public à l'École normale supérieure de Lyon, c'est fini. Merci aux étudiants pour leur invitation, avec à leur tête Adrienne, Marjolaine, Jérémy et Léonard. Merci aux anciens élèves, au Crous de Lyon et aux associations Transistor et In Situ. Et retour dans notre studio de la Maison de la Radio.
Eh les filles, les gars, les papous, c'est dans votre tête, sur France Culture, hein?
Oui!
En piste, Clémentine Mélois, Patrice Minet et Jacques Vallée pour le jeu des suppositions. Un jeu ni bête ni méchant, un jeu de potache. Comme disait François Caradec, jeu auquel il faut rendre ses lettres de noblesse puisque des artistes comme Prévert et Carnet y jouaient, accoudés aux zincs des bistrots quand ils faisaient film commun. Le jeu des suppositions, c'est la pause récré. Un récit que l'on adresse à un ami en lui imaginant le nom porteur d'un calembour qui arrivera en chute de l'histoire. Clémentine Mélois, pour qui votre histoire ?
Hervé.
Oui.
Suppose que tu t'appelles Moureux.
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 Tu es ouvrier à la retraite.
Oui.
Dans le temps, tu travaillais dans la métallurgie en Lorraine, dans la vallée de la Fenche.
Ouais. Bel endroit.
Tu te souviens ?
Ah, très bien.
Maintenant, tu occupes ton temps libre à fabriquer des choses en métal et en bois, parfois même en verre, dans ton atelier d'Ayange. Alors Moureux, ton habileté t'a valu une certaine réputation et on fait souvent appel à toi lorsqu'on a besoin de réparer un objet ou de fabriquer une enseigne de boutique, par exemple. Mais ta spécialité, ce sont les chiffres et les lettres. Peut-être à cause de ton grand-père qui travaillait dans une imprimerie, encore qu'on ne sache jamais d'où nous viennent nos passions. Tu passes la majeure partie de ton temps, Moureux, à souder de beaux grands A en acier, des E façon Bauhaus, des C en écriture anglaise tarabiscotée, des G en laiton ou en aluminium. Tu sculptes des 1, des 10 ou des 50 en bois de sapin ou de poirier, avec ou sans ornementation. Les gens du coin s'en amusent et viennent souvent te voir travailler, Moureux.
Ça vient doucement.
Oui, oui.
Ils demandent parfois à récupérer un caractère raté, inabouti ou inachevé que tu jettes sans façon dans un coin de l'atelier. Tu acceptes toujours, Moureux. Après tout, si ça peut faire plaisir, t'es pas là pour faire du commerce. Ainsi, un touriste qui se promènerait dans le coin pourrait s'étonner de voir les maisons ornées de grands morceaux de lettres en métal ou de bouts de chiffres en bois un peu ratés. Ailleurs, on a plutôt l'habitude de voir des roues de charrues ou des pots de fleurs. Mais à Agondange, Florange ou Rosselange, c'est devenu une coutume presque un porte-bonheur d'orner sa façade d'un raté de Moureux. Un E trop plat, un A trop large, un bout de 6 un peu écrasé. Et quand quelqu'un qui ne serait pas au courant demande ce que c'est que ce morceau de 10 mal proportionné, cloué sur le crépi de la maison, on lui répond avec un peu d'agacement comme si c'était une évidence. Ce que c'est ? Ça se voit, non ? C'est les fragments d'un discours amoureux.
D'un 10, le chiffre.
Ah oui.
Court, voilà. Amoureux. Oui, évidemment, ouais. Il y a une petite faute de français parce qu'on ne dit pas A.
Bah,
on s'en dit plutôt deux.
Ça se dit.
Ah, mais on va recevoir des courriers.
C'est vous dites Gondange.
À Gondange, j'ai le droit de le dire. L'usage fait loi.
Fragment de discours amoureux.
Pas de problème.
Ça va, et ce qui était intéressant, c'était l'histoire.
Ah, bah oui.
Hein, voilà.
Bien sûr.
Bon, c'est à vous de jouer au jeu des suppositions, Patrice Minet. Vous vous adressez à qui ?
Ben, celle-là est mignonne, alors je vais m'adresser à Dominique.
Avec joie.
Dominique, suppose que tu t'appelles Phare.
Oh, ça me plairait bien en plus.
Ouais, Phare. Ouais. On les connaît, les personnes comme toi, Phare. Tu manges sans pesticides, tu bois sans additifs, tu cries halte au plastique, stop aux matériaux de synthèse, dehors faut boire, en arrière trompe couillon. Ne serais-tu pas quelque part et pas bien loin, un peu raide, comme on dit grosso modo en médecine industrielle, psycho-rigide? Tiens, justement, parlons-en de la santé. Tu te soignes avec des gouttes, des tisanes, des herbes, et surtout pas de chimie, hein. Va des rétro, médecine allopathique. Mais enfin, regarde-toi, toujours emmitouflé dans tes écharpes pure laine vierge, tes pulls en coton bio, tes chaussettes tissées à la main en fibres non traitées, tout le temps souffrante sous ton tatringue naturel. Car, paradoxalement, ce que tu détestes le plus, phare, c'est la peau, le derme, la vision de la carnation. Rien que l'idée d'un bout de chair sans voile te fait écumer de rage. Et je ne te parle pas des nudistes. Nudistes, suppôts de Satan, émissaires poilus de Belzébuth.
Ça arrive, tout doucement.
Vous l'avez vu?
C'est, oui, ouais. Sûrement. C'est curieux ça, non? As-tu oublié d'où tu viens? Dans quel état? Ta maman t'a mise au monde? As-tu oublié que tu es nénuphar?
Trop drôle, Minet. C'est à vous, Jacques Vallée. À qui adressez-vous votre histoire?
Patrick, suppose que tu t'appelles Lade. L-A-D-E.
Vous êtes d'accord?
Je ne suis pas sourd, oui, oui. Je veux bien.
Suppose que tu t'appelles Lade, tu peux te réjouir de ton nom.
Bah oui.
Car il rime avec rigolade. Eh bien non, tu restes grognon. Mais qu'est-ce que t'as? T'es malade? Depuis l'enfance, t'es ronchon. Tu te complais au Jérémiade, mais quel caractère de cochon!
Et ça rime! Là.
Je sais pas, quitte cette hermosade, pars sur les routes sans façon, entreprends de belles balades. La vie de l'Ade est un tourbillon. Comment? Pas question d'escapade? Le monde n'est pas folichon? La vie est partout aussi fade? Mais tu te montes le bourrichon. Tu dois te secouer, ventre bleu, et voir des pays, des peuplades. Il y a des milliers de lieux comme l'île au loin, la Désirade. Tu pourras boire du ratafia et te chauffer à tous les feux. Et puis si tu chopes la malaria, dis-toi que la vie est un jeu. L'Ade, ne sois plus un paria. Pars pour te dérider un peu et dis-toi surtout qu'il y a là-bas l'Ade des gens heureux.
Oh, la balade des gens heureux. Là-bas, l'Ade des gens heureux. C'est joli parce qu'on fait un portrait de vous, Patrick. Au début, vous êtes un peu bougon, etc. Puis on sent que vous allez respirer la joie de vivre. Là-bas, l'Ade des gens heureux. Je n'aurais jamais cru que Jacques Vallée connaissait cette chanson.
Alors là. Quelle chanson? Ah, c'est une chanson.
De qui, Jacques?
Mais je la connais pas, moi, cette chanson. Vous êtes drôle.
La balade de gens heureux.
Gérard Lenormand, non?
Bah oui, Gérard Lenormand.
Oui, à peu près, évidemment. Oui. Il n'y avait pas toutes les notes. Elle est mignonne. Pour les papous, sur France Culture, au micro Françoise Tressard. Et la bande des papous du jour, à suivre Drôle des pistoliers, et le DLA, avec un piège littéraire choisi par Patrick Beignet, pour les experts Dominique Muller, Eva Almassy et Jacques Vallée. Voilà la situation, ils ont des choses à se dire, mais plutôt que de se rencontrer tout simplement pour en parler, ils préfèrent s'écrire à l'ancienne des vraies lettres manuscrites, c'est si délicieusement démodé. Peut-être ont-ils de bonnes raisons d'ailleurs de ne pas se voir. Peut-être le premier a-t-il intérêt à passer par un intermédiaire pour que la personne à qui il a une demande à faire accède à ses désirs. La vie, parfois, c'est très compliqué. C'est Lucas Fournier qui joue le rôle du premier personnage. Il a choisi la situation, le cadre de l'histoire. Dans le rôle de l'intermédiaire, qui ne sera pas neutre, Jacques Jouet. Et c'est Gérard Mordillat qui se glissera dans la peau du troisième personnage. Tous les trois sont de drôles d'épistoliers. Vous vous présentez, Lucas Fournier?
Je suis le maréchal Ney.
Oh!
Duc d'Elchingen, prince de la Moscova. Enfin, pas au moment de la lettre, puisque la lettre que je vous adresse est de 1807.
D'accord.
Et donc j'écris à Napoléon.
Bon, en toute simplicité.
Je lui écris en soldat.
Oui.
Sire, je n'écris pas à l'empereur, c'est au soldat que je m'adresse. Celui qui, à Héliopolis, partageait avec moi un sorbet de chameau mort. Celui qui me pinçait affectueusement l'oreille devant Mayence en flammes. Moi, Michel Ney, duc d'Elchingen, grand aigle de la Légion d'honneur, que ses hommes appelaient le Lion Rouge. Moi qui me suis battu à Ponte San Paolo, à Rinda, à Jaffa, à Aboukir, à Smolensk, à Ölinden. Moi qui ai pris Innsbruck, Würzburg, Rednik, Forchheim, Neuwied, Diford, Mannheim, Sels, Francfort, Horstadt, Erfurt, Magdebourg. Moi dont le bras tant de fois a sauvé cet empire. Moi qu'avec respect toute la France admire, qui tant de fois a fermé le trône de son roi. Moi qui, mais je ne dirai pas ici, mais au fait d'armes, tu les connais. Puisque je suis celui que tu appelais le brave des braves. Et c'est bien là la difficulté. Hein. Brave ne veut pas dire couillon, mon empereur. Le sang, je l'ai versé, sire, mais mon sang n'a fait qu'un tour quand j'ai vu l'œuvre de Jacques-Louis David, sacre de l'empereur Napoléon Ier et couronnement de l'impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804. Il y en a du monde là-dedans, une vraie garnison, du rutilant, du militaire, du femelle, du curé, ta famille, tes guerriers, oh, je les ai bien reconnus, Bessières, serrurier qui tient son porte-clés. Ce qui est vrai, c'est qu'il porte la clé sur le tableau. Ouais. Moncey, Murat, Lefebvre, Kellermann, Pérignon. C'est un champ de bataille emplumé avec des ors, des costumes, des plumes, des croix. Mais dans les grandes batailles, il y a des disparus. Où sont Mortier, Lannes, Masséna, Soult, Berthier? Et où suis-je, moi, maréchal Ney? Je me suis cherché partout, sous la soutane du pape, dans les recoins, rien. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure que Ney n'y est pas. Pourtant, en 9,79 m sur 6,21 m, il y avait de la place pour les grands hommes. J'ai compris, ce n'est pas un oubli, c'est une exécution, ce n'est pas une erreur, c'est une déclaration de guerre. David m'a tué. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie et ne suis-je blanchi pour les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Alors, mon sire, que répondrai-je à mes hommes quand ils me diront « Maréchal, nous voilà, nos sabres sont aiguisés et nous allons étriper ce David comme nous l'avons fait des Autrichiens à Ölinden. Nous ferons subir à ce tableau peinturluré ce que l'empereur infligea naguère à Campo Formio au cabaret de porcelaine offert par la grande Catherine à de Koblenz. L'heure est grande comme notre armée. L'art que j'aime, c'est celui de la guerre. La couleur que j'aime, c'est celle du sang de l'ennemi tué. Alors, mon sire, dites bien à votre Michel-Ange de sous-préfecture qu'il aurait mieux fait de se cantonner aux Sabines et aux Coriaces. Ceux-ci ne viendront plus lui chercher des poux dans les pinceaux. Ah, il veut enterrer les vivants. Qu'il se dépêche. Dites-lui que je lui donne 100 jours pour me rendre l'honneur, pour me donner sur son tableau la seule place qui est la mienne. À vos côtés, mon sire, pour que votre gloire ne souffre pas de cette altération mesquine qu'un badigeonneur indigne veut infliger à votre grandeur. Je suis né, il est vrai, et les âmes bien nées ne seront jamais nées de la dernière pluie. Je te salue en soldat, ton nez.
Il est très amer, hein, quand même, mais il reste vaillant, gaillard, hein, absolument. Et donc, Napoléon, Jacques Jouet, en toute simplicité.
Ah, les généraux,
oui, oui.
Les maréchaux.
Le maréchaux.
C'est pas la même chose.
C'est mal parti.
Non, en plus, il est assez susceptible.
Comme disait le général de Gaulle, si les généraux sont si bêtes, c'est qu'on les choisit tous parmi les colonels.
Oui. Et vous avez quelque chose à dire sur le sujet, Jacquard?
La plupart des maréchaux ont commencé par être généraux.
Il est vrai.
Alors, je ne connais pas très bien la hiérarchie
personnellement.
En général. On ne peut pas sauter un grade dans l'armée.
Non.
D'accord. Alors, dites-moi, Napoléon, Jacques Jouet, vous avez fait exprès de glisser un mot à David pour qu'il ne mette pas le maréchal Ney sur le tableau, ou c'est un oubli?
David, vous savez, ne prend pas d'initiative.
Oui, donc vous êtes responsable.
Je suis un peu embêté quand même.
Et donc,
J'écris à Jacques-Louis David.
C'est Gérard Mandia.
C'est moi, oui.
C'est ça, oui.
Vous m'avez reconnu.
C'est une première. Hein.
Oui.
Cher maître. Savez-vous que c'est la première fois de ma vie, et sans aucun doute la dernière, que je m'adresse à un subordonné en lui donnant du maître? Mais enfin, il faut ce qu'il faut. Je suis content de vous. Je vous l'ai déjà dit, je ne reviens pas là-dessus. Votre sacre, enfin plutôt le mien, est parfait. Sauf, car il y a un sauf. Figurez-vous qu'il y a un de mes maréchaux, Ney, pour ne pas le nommer, qui me fait un caca nerveux. Pardonnez cette formule de soldat qui va peut-être indisposer l'homme de culture que vous êtes. Pour ne pas s'être reconnu dans les officiels présents au couronnement. Que faire?
Je n'ignore pas le fait que vous m'aviez présenté sous forme de croquis avant l'exécution du grand format le plan de table, en quelque sorte, de la cérémonie. Et que j'avais effectivement biffé Ney, Berthier, Soult, Masséna, Lannes et Mortier avec de bonnes raisons indiscutables que je ne souhaite pas voir discuter. Ces officiers sont pour certains des soudards, pour d'autres des brutes épaisses. Tous sont des rampouilles et des badernes qui n'ont à la bouche que des plaisanteries d'école de cavalerie et n'ont par conséquent rien à faire sur la photo. Cela dit, je peux difficilement prendre le risque d'un préavis de grève d'un bon tiers de mes généraux et maréchaux, surtout à cette période où j'ai prévu un voyage en Russie, dont je compte bien revenir vainqueur. Alors, cher maître, je me demandais, et puisque vous êtes là, je préfère vous le demander directement, ne pourriez-vous pas, et puis quoi encore? Qu'est-ce que c'est que cette formule insidieuse qui ne me ressemble pas? David, faites-moi pour demain un petit tableau de 30 sur 40 cm, avec mes 6 généraux coupés au-dessus de la poitrine, pour qu'on ne voit pas trop leur décoration. J'accrocherai ce petit addendum face au grand tableau à Fontainebleau, et ça fera l'affaire. Vous titrerez ça sobrement dans le style « et aussi ». Ou « petit complément au sacre », « était également présent », ou « autre figurant ». Bien entendu, ne parlons pas d'argent. Le grand format m'a coûté assez cher. Vous me ferez ça gracieusement. Napoléon Ier, empereur des Françaises et des Français.
Il est d'un méprisant, cet homme. Heureusement que Ney n'a pas lu cette lettre. Ah, bah David, oui. Gérard Mandilla.
Mais moi, j'écris au maréchal parce que je comprends tout ça. Bien sûr, parce que Napoléon réécrit l'histoire à sa façon. Donc, à mon tour de la réécrire, d'une certaine manière, et de ménager aussi le maréchal Ney. Parce que...
Il pourrait vous commander un grand tableau, c'est vrai.
Voilà, oui. C'est un futur client. Enfin, puis je pense que c'est important toujours d'avoir ses entrées ailleurs que directement auprès de l'empereur. Ah. Et donc, monsieur le maréchal, je reçois une lettre de l'empereur qui me fait part de votre courroux de ne point vous trouver sur ma toile célébrant son sacre. Permettez-moi de vous présenter mes plus plates excuses. Il n'y avait là nulle malice ni consigne de l'empereur. Mais vous pointez du doigt, à juste raison, un inqualifiable oubli de ma part. Comment puis-je réparer cette faute? L'empereur me suggère de faire un rajout, une sorte de post-scriptum pictural, un erratum peint. Je ne puis m'y résoudre. Ce serait insultant pour vous, comme une quatrième place dans une compétition sportive. Non, je veux vous consacrer une toile entière qui vous présentera au monde pour l'éternité. J'ai pensé qu'une scène intime, voire intimiste, serait le cadre idéal pour une telle toile. Je vois les choses ainsi. Dans une pièce, au mur d'un brun chaud, vous seriez allongé dans une baignoire sabot, le sabot rappelant vos exploits de cavalier. Vous reposeriez, comme César, après Alésia, non sur un drap, mais sur le drapeau de votre régiment. Une lumière divine, tombée d'une lucarne, ferait ressortir l'impressionnante musculature de votre torse, où serait tatouée la liste de vos victoires. Pour figurer la bataille, peut-être serait-il très beau et utile que vous jouiez négligemment avec un couteau. Je crois qu'il serait agréable à l'empereur que vous ayez sur la tête un turban semblable à celui de son mamelouk, afin, en une seule toile, de figurer l'union de la grande armée du plus humble au maréchal de France. Si cela vous sied, je vous attends lundi pour poser chez mon ami Cordet qui aura la bonté de nous prêter sa mémoire. Recevez, monsieur le maréchal, mes salutations les plus empressées. Jacques-Louis David.
C'est quand même très intéressant comme proposition.
Alors, hein? Est-ce que ça s'est fait?
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, Jacques Abertrand?
Eh bien, j'en reste baba.
Elle n'est pas très jolie, cette introduction, mais enfin, je trouve que je m'en sors pas mal. Dans la mesure où c'est pas moi qui l'ai faite.
Que je suis heureuse, ma chère, j'en perds la tête. Et ce n'est pas de l'amour pour plaisanter. Du beau Raoul, je suis faire la conquête. Je suis aimée, je peux m'en vanter. Cet amant-là m'a déjà fait connaître le désespoir, les pleurs, etc. Il voulait même me jeter par la fenêtre. Quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. La première fois qu'il m'a pris sa tendresse, il me fit peur tant il roula des yeux. Et depuis ce temps-là, s'il me fait une caresse, j'emporte la marque et j'ai les bras tout bleus. À ses transports, souvent, je me dérobe, car en amour, je sais que cet être-là va me déchirer mon jupon et ma robe. Quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. Quand il m'enlève, pas moyen que je m'échappe. Il me serre si fort, je perds la respiration. Quand sur ma joue, il me colle une petite tape. Ça me fait tout de suite comme une fluxion. Il me pince la main, c'est sûr qu'il va me la tordre. Je me prends ses doigts, c'est sûr qu'il écrasera. Il ne peut pas m'embrasser sans me mordre. Ah, quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. Quand il veut bien me mener à la promenade, c'est dans des chemins couverts et poussiéreux. S'il passe du monde, Raoul devient maussade. Il faut tout de suite que je baisse les yeux. Si je me retourne, alors il faut voir comme Raoul me gifle en me criant déjà. Je te casse la gueule si tu regardes un autre homme. Quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime, comme ça.
Un bon vieux classique par Juliette. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture, le DLA. Patrick Beignet, littéraire s'il en est, a sorti de sa bibliothèque un certain livre. Il l'a feuilleté comme ça pour mémoire, est tombé en arrêt devant un paragraphe d'une trentaine de lignes et il a décidé qu'il soumettrait anonymement cet extrait aux experts du jour, Dominique Muller, Eva Almassi et Jacques Vallée, deux amis, mais au diagnostic à l'aveugle, l'amitié se met entre parenthèses le temps du jeu. Patrick Beignet a bien l'intention de les piéger et eux de briller à ses dépens en démasquant l'auteur du fragment de littérature que nous écoutons. Et s'il perd, eh bien un plaid d'amour propre n'est pas mortel. À vous, Patrick Beignet.
Sa chevelure noire et épaisse, séparée sur son front, se répandait des deux côtés en une profusion de petites boucles, ce qui lui donnait quelque ressemblance avec les portraits de Rubens. Quand il se fut débarrassé de son vaste manteau, je m'aperçus qu'il était vêtu d'un kurtka noir avec des tresses nombreuses, mais ce qui me surprit davantage, c'est qu'il portait par-dessus ses bottes de fort belles pantoufles. Je remarquai cela pendant qu'il secouait sa pipe, fumait en 5 minutes. Notre conversation avait peine à se lier. L'étranger semblait très occupé d'un grand nombre de plantes singulières qu'il avait tirées d'un étui et qu'il examinait avec soin. Je lui témoignai mon étonnement de voir d'aussi belles plantes et lui demandai, comme elles paraissaient toutes fraîches, s'il les avait cueillies au jardin botanique ou chez Boucher. Il sourit d'une manière assez étrange et répondit: vous ne me paraissez pas fort sur la botanique. Autrement, vous ne m'auriez point aussi... Il hésita, j'ajoutai à demi-voix, sottement. Questionné, termina-t-il d'un ton de franchise bienveillante. Vous auriez, poursuivit-il, reconnu du premier coup d'œil que ce sont là des plantes alpestres qui ne croissent que sur le Chimborazo.
Bon, Eva Almassi, vous qui êtes notre championne en botanique, au papou dans la tête, qu'est-ce qu'il nous raconte ce texte?
Ben, ça raconte la rencontre entre deux hommes, dont l'un est probablement russe, hein, ou tartare, ou en tout cas vient d'Asie, ou de l'Europe, mais juste à côté de l'Oural, hein, et qui a affaire à l'autre, donc qui le reçoit et qui va faire quelque chose pour lui, ou alors l'autre est un messager. Voilà ce qui se passe.
Et la petite conversation sur la botanique, sur la botanique, c'est une parenthèse.
Non, c'est cette manière de faire connaissance où il est quand même étrange de porter des bottes et en plus des pantoufles par-dessus et arriver avec des fleurs. On veut faire un portrait un petit peu comique, un petit peu à grands traits, très exotique hein, de cet étranger.
C'est un joli texte, non, Jacques Vallée ?
Oui, c'est un très joli texte, très bien écrit. Mmh. Et ce qu'il y a de curieux, c'est très exotique. Alors que ça peut se passer en France et tout ça, mais tous les termes sont exotiques. Et en plus, ce que je pense par rapport à la botanique, c'est un scientifique, alors que l'autre a l'air plutôt perdu là, sur le sujet. Et ce qu'il y a d'encore plus étrange, c'est que l'auteur de ce texte, en 10 lignes ou 15 lignes, fait deux références sur les peintres, Rubens et Boucher. Donc, c'est aussi un artiste, c'est quelqu'un qui, est, dans son écriture, a une référence à la peinture, enfin, c'est un artiste.
Mais
c'est...
Oui, surtout, Dominique
Miller. Je n'ai pas compris que ce Boucher-là fut le peintre,
oui.
Puisqu'il a cueilli les plantes au jardin botanique. Ou chez Boucher.
Ou dans un tableau de Boucher.
Non, parce qu'il dit, comme elles paraissent toutes fraîches, on dit les fraîcheurs des chairs de Boucher, c'est très connu.
Bien sûr. Y compris chez le Boucher, si je puis me permettre.
Parce que le Boucher, il n'y aurait pas une capitale.
Mais c'est un monsieur qui s'appelle Boucher dans leur histoire. C'est un autre personnage.
Oui, c'est pas forcément une référence culturelle à la peinture.
Je pense, et ça date aussi le texte, pour mieux... aider le lecteur, le cher lecteur, je t'aiderai là à visualiser mon roman d'aventure que je suis en train de te brosser comme ça. Et je cherche mes portraits chez Rubens et je cherche mes belles plantes chez Boucher. Donc c'est un procédé en même temps et pour tout de suite marquer une distance et une rareté parlera de l'unique endroit où ces fleurs poussent, c'est-à-dire le Chimborazo.
Est-ce que Patrick Béni a le droit de nous le dire? Oui. C'est une montagne.
C'est un volcan, plus haut du volcan Mexique. De l'équateur.
Là, étrangement, ça me renvoie à mes lectures en hongrois quand j'étais petite et que je lisais les Jules Verne en hongrois, puisque c'est devenu un mot hongrois commun. Le Chimborazo, c'est le nec plus ultra de quelque chose.
Ah oui.
Donc c'est un mot d'enfance que je récupère bizarrement dans un texte français.
C'est inouï, ça.
Enfin, que j'imagine français.
C'est quoi cette histoire, Dominique Muller? C'est le début d'un roman, c'est une nouvelle, appartient à quel genre littéraire?
Récit d'aventure quand même, ça paraît. Le narrateur, qui est peut-être, je ne sais pas, une personne normale par rapport à son pays, est très surpris, c'est un étonnement, étrange, de voir ce voyageur arrivant. Il est évidemment très surpris, puisqu'il décrit tous ses cheveux, ce court cas à tresses, ses pantoufles, et ses plantes, enfin, il y a une sombre histoire de plantes là-dedans. Et tout à coup, alors que ce voyageur a l'air d'un monsieur, en effet, de l'Oural, venu de steppe, je ne sais quoi, tout à coup, nous voici aussi avec un volcan de l'équateur. Mmh. Ça fait beaucoup de voyages.
Ça fait
beaucoup d'images.
Oui, beaucoup d'images, beaucoup d'étrangetés, certaines naïvetés mises en scène par le narrateur lui-même. Ouais.
C'est le personnage principal du roman.
Je pense que c'est la personne qui parle, pas le voyageur. Hein. Mmh. Il y a aussi un regard de romancier dans la description de cet homme. Sa chevelure noire et épaisse, séparée sur le front, je croyais qu'il s'agissait d'une dame.
Donc, tout de suite, j'étais
très étonné après quand il dit qu'il se fut débarrassé. Et puis, ça lui donnait quelques ressemblances avec les portraits de Rubens. Tout ça, c'est très féminin, toute l'entrée.
Non, mais je me suis dit, elles n'ont pas la chevelure noire. Les dames chez Rubens, mais peut-être les hommes aussi.
Oui, donc c'est très curieux cette impression que l'on a. Mais ça veut dire que la personne qui a écrit ça est un romancier qui est très précis dans ses descriptions. Donc je vois l'importance du jardin botanique dans tout le roman.
Bien sûr.
Je pense que c'est un point Très important. Oui, oui. C'est une petite graine qui est mise, si c'est le début d'un air de dire, vous allez avoir de la botanique, puisqu'il y a toutes les références après des plantes alpestres qui ne croissent que sur tel endroit. Donc, et puis l'autre se moque de lui, lui dit vous n'avez pas l'air très fort. Donc, c'est le sujet du roman.
Je ne crois pas. Je pense vraiment qu'il brosse là le portrait de quelqu'un qui va devenir soit le client du jeu, donc du narrateur, soit une sorte de messager qui va lui apporter quelque chose. Et en même temps qu'il fait son entrée et qu'il se débarrasse de son manteau et tout de suite il se met à fumer en cinq minutes une pipe, c'est l'entrée en scène de ce personnage. Mais c'est juste pour le présenter, ça n'est pas pour donner une importance capitale à ces plantes.
Donc vous n'êtes pas
plantes.
D'accord tous les non. deux. Vous êtes rarement d'accord de toute façon tous les deux.
Très souvent.
Mais c'est bien, ça crée du mouvement. Dominique Muller.
En tout cas, cet étranger, c'est comme une intrusion inattendue. C'est l'irruption justement d'une forme d'exotisme, ne serait-ce que aussi avec ces plantes que le narrateur ne reconnaît pas. Donc, il est évident que ce caractère exotique va être poursuivi. Enfin, exotique, pittoresque au sens propre, puisqu'il y a Rubens et Boucher. Donc ça, c'est un élément extrêmement fort de tout ce récit.
C'est une écriture qui date de quelle époque,
ça ? Oui, c'est ce qui serait intéressant de la dater maintenant. Mais je pense que ça peut être du 19e siècle. Mm-hmm. Enfin, il y a un certain recul dans cette écriture par rapport à notre époque. Ça peut être fin 19e siècle.
Oui, c'est ce que j'ai dit plus ou moins quand je disais que ces peintres ont été là pour ce style-là, pour les romans d'aventure et du 19e siècle, fin 19e siècle.
D'accord avec eux, Dominique Muller ?
Oui, oui. Oui, parce que c'est en même temps assez léger. Vous ne me paraissez pas fort sur le document. Temps tenu avec en même temps des choses très...
C'est un peu téléphoné, mais enfin, c'est
convenu, bien. Voilà, voilà.
Mais c'est quand même tenu.
Et c'est écrit directement en français, Dominique ?
Oui. Oui, il me semble que oui.
Un argument ou deux pour le
dire ? Eh bien, parce que les phrases sont assez coulantes, assez simples, mais voilà, l'auteur dit ce qu'il a à dire. Il n'y a pas de cheville maladroite. Sinon que moi j'aurais écrit, non pas sa chevelure noire et épaisse, qui est une allitération un peu lourde, j'aurais écrit sa chevelure épaisse et noire.
Ouais.
C'est tout.
C'est vrai, c'était plus joli.
Je chipote.
Vous chipotez. On le réécoute ce texte, non, Patrick Beignet ?
Sa chevelure noire et épaisse, séparée sur son front, se répandait des deux côtés en une profusion de petites boucles, ce qui lui donnait quelque ressemblance avec les portraits de Rubens. Quand il se fut débarrassé de son vaste manteau, je m'aperçus qu'il était vêtu d'un court-cas noir avec des tresses nombreuses. Mais ce qui me surprit davantage, c'est qu'il portait par-dessus ses bottes de fort belles pantoufles. Je remarquai cela pendant qu'il secouait sa pipe, fumée en 5 minutes. Notre conversation avait peine à se lier. L'étranger semblait très occupé d'un grand nombre de plantes singulières qu'il avait tirées d'un étui et qu'il examinait avec soin. Je lui témoignai mon étonnement de voir d'aussi belles plantes et lui demandait, comme elles paraissaient toutes fraîches, s'ils avaient cueilli au jardin botanique ou chez Boucher. Il sourit d'une manière assez étrange et répondit « Vous ne me paraissez pas fort sur la botanique, autrement vous ne m'auriez point aussi... » Il hésita, j'ajoutais à demi-voix « Sottement questionné » termina-t-il d'un ton de franchise bienveillante. « Vous auriez, poursuivit-il, reconnu du premier coup d'œil que ce sont là des plantes alpestres qui ne croissent que sur Chimborazo. »
Ces deux personnes, apparemment, vont avoir des rapports étroits, non, Jacques Vallée ?
Oui, mais la relecture, on pense à un roman policier, on pense à Sherlock Holmes, tout d'un coup interroge l'autre, enfin, est devant quelqu'un de mystérieux, essaye de trouver, parce que vous ne me paraissez pas si fort, il hésita, j'ajoutais sottement, il y a tout cette complicité entre la personne qui questionne ou qui trouve quelqu'un d'incongru devant et qui essaye de percer le mystère. Et ça pourrait pourrait être aussi du Jules Verne. Enfin, c'est aussi.
Oui.
C'est
parce que nous sommes influencés par Patrick, par le fait que ce soit Patrick Bénier qui a porté le texte.
Mais j'ai, j'ai noté Sherlock Holmes tout de suite, un petit peu à cause de la pipe aussi, mais alors que c'est l'autre qui fumerait, et le docteur Watson. J'ai noté tout ça au début, et Jules Verne, je l'ai même cité. Mais là, tout d'un coup, je pense à ces pantoufles. Il y a, c'est les contes d'Hoffmann, ou, comment ça s'appelle? J'ai du mal à mettre le nom. Il y a les pantoufles qui voyagent très vite. C'est des sortes de bottes de 7 lieues et qui expliqueraient que les fleurs puissent rester si fraîches alors qu'elles viennent de l'autre côté de la terre. Mais le nom ne me vient pas. Mais ce sont des contes fantastiques.
Vous pouvez l'aider, Dominique Müller?
Absolument pas, car je me demande moi-même où se trouve ce narrateur. Ce monsieur, avec ses cheveux frisés, est un étranger, mais un étranger par rapport à où?
Oui.
Voilà. Il n'est nulle part dit que ce narrateur soit un Anglais. Par ailleurs, ils ont l'air de se connaître.
Oui.
Parce que, voilà, donc, ils s'expriment en Dieu sait quelle langue, mais l'étranger et le narrateur se comprennent. De toute évidence, c'est une suite de
Ils se sont peut-être déjà vus il y a 5-6 ans et ils se retrouvent.
Je me demande tout de même si le narrateur lui-même n'a pas voyagé déjà. Ce n'est pas chez lui. Enfin, ce n'est pas ailleurs que chez lui, plus exactement.
Oui. On a beaucoup de questions et peu de certitudes par rapport à ce texte.
C'est très aventureux. Mais
le narrateur est devant une énigme. Donc, on se pose des questions comme le texte s'en pose.
Donc, le ressort d'identification marche très bien parce qu'on s'identifie au narrateur qui n'y comprend goutte.
Évidemment, on a envie d'en savoir plus. D'abord, est-ce que cette histoire de botanique est importante?
D'après Jacques Vallée, elle est le cœur du roman.
Oui, mais ça, on a envie de savoir après, justement, pourquoi les a-t-il dans un étui? Il les garde très précieusement. Il est peut-être venu pour ça. Enfin, voilà.
C'est compliqué,
Très compliqué.
Mais peut-être le piège est-il plus innocent qu'on ne le croit? Vous avez des noms à proposer, alors vous en avez déjà jeté, évidemment, Jules Verne, Conan Doyle pour Sherlock Holmes, mais vous les maintenez?
Non,
c'est juste une impression comme ça.
Mais comme je ne retrouve pas dans ma tête le nom de l'auteur de ce voyageur avec les pantoufles, je vais garder Jules Verne. Mais en creusant mes ménages, de très loin me revient un nom qui serait Hauf, et c'est pour ça que j'ai pensé au comte Hoffmann. Hauf, et c'est Les pantoufles merveilleuses, ou quelque chose comme ça, le titre.
Bon, pourquoi pas? Je ne connais pas. Vous connaissez Jacques Vallée?
Non. Je vais me précipiter dessus, surtout si c'est vraiment lui.
Si c'est lui, ça valait une très grosse cote. On joue quand même avec des auteurs très connus, a priori.
Il est très connu. Ah bah oui. Bon. Les pantoufles merveilleuses, enfin, voyons.
Évidemment. Et pour vous, Jacques Vallée, alors?
J'hésite entre deux écrivains, Karl Huysmans ou Octave Mirbeau. Mais je vais en choisir un, c'est Huysmans.
Ah ouais.
Tout ce côté, justement, exotique qui, dès le départ, m'a sauté aux yeux, je pense que ça pourrait être tiré d'un roman de Huysmans.
D'accord, mais pourquoi pas? Vous avez l'air inquiète.
Toutes ces suggestions me paraissent excellentes. Je vais en faire une à mon tour. Je songe au Joseph Kessel des Cavaliers. Quand il était en Afghanistan, c'était totalement exotique, avec j'ai oublié comment ça s'appelait, mais ces espèces de tournois de chevaux que font les gens.
Dans la steppe.
C'est pas Oustachi qui sont des méchants, c'est pas ça. Enfin bref, les cavaliers, très 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 exotiques, et ça se déroule en 1920, quelque chose comme ça.
Bon, mais c'est très varié, les choix qui ont été faits, Patrick Bénier. Donc pour Eva, c'est ou du Jules Verne ou du Hauf? Je ne sais pas comment ce nom se prononce, je ne l'ai jamais entendu de ma vie, mais bon. Éclairez-nous si vous voulez bien, rubrique commentaire des papous du jour. Pour Jacques Vallée, c'est Huysmans. Oui. Et pourquoi
ça
pas?
Ça peut être.
Ah ben oui, c'est votre choix en tout cas, évidemment. Ne mettez pas tout de suite un bémol. Et pour Dominique Müller, Joseph Kessel, et ma foi, elle est assez affirmative.
Oh non!
Non!
Oh non!
Il faut rester humble.
Bon, est-ce que dans vos trois noms figure l'un des trois que je viens de nommer?
Je vais vous surprendre, mais non.
Bon, ça commence bien.
C'est perdu.
Ça, monsieur,
c'est perdu.
Pas du tout.
Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ?
Trois noms, oui. Dont un a été prononcé tout de même au cours des débats.
Oui.
Barbey d'Orvilly, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann et Rudyard Kipling.
Kipling, c'est intéressant.
Barbey d'Orvilly, Hoffmann ou Kipling, c'est un beau choix. Hein? Oui.
Moi, je choisis Barbey d'Orvilly parce que c'est proche des deux auteurs que j'avais...
Envisagé,
et c'est la même époque.
Mirbeau et Huysmans.
Oui. Donc je reste sur cette filière, parce qu'il y a toute cette curiosité exotique dans ces trois auteurs.
Oui, Dominique Muller.
Je n'aurais pas l'outrecuidance de dire que je choisis Kipling parce qu'il commence par un K. Mais je choisis tout de même Kipling à cause de l'exotisme, enfin, et ce regard un tout petit peu condescendant sur l'étranger.
Et Val Massy,
alors puisque c'est le piège, les pantoufles, et puisque je confonds toujours ce Auf et ce Hoffmann, alors je vais dire Hoffmann.
C'est ben voilà, comme ça.
Comme ça,
c'est sûr qu'il y a un gagnant. Oui. Comme ça, on est tranquille.
Il y a sûrement un beau gagnant. Alors, Barbey d'Orvilly pour Jacques Vallée, Rudyard Kipling pour Dominique Muller, Hoffmann pour Eva Almassy. Et donc.
Eh bien, il y a une gagnante qui est Eva.
C'est Hoffmann.
Oui. Dès le début, elle l'a dit. À peine entendu le texte.
Non, c'est pas vrai. C'était beau. Deuxième fois. La deuxième fois.
Mais vous l'avez dit. Oui, alors, vous pouvez nous dire dans quoi ça se trouve.
C'est un conte qui s'appelle La nuit de la Saint-Sylvestre.
Oui.
Et dont je dois préciser qu'il est traduit ici par Gérard de Nerval.
Ah oui.
Et la poigne de Nerval fait certainement qu'on peut tellement croire que c'est un texte
en français.
Et ça raconte quoi alors?
Ça raconte des choses très fumeuses et très mystérieuses qui se passent une nuit de la Saint-Sylvestre à Berlin. Oui. Alors on peut préciser que Boucher, Dominique avait raison, c'est pas du tout le peintre, c'est un marchand de fleurs de Berlin dans les années 1810.
C'est déjà ça.
C'est une petite pierre.
Mais c'est vrai que c'est pas un conteur facile, quoi. Il a une sorte de lourdeur des moyens de...
Vous nous recommandez de le lire?
Ah bah oui, c'est un des plus connus des contes fantastiques. Non, c'est un très très beau texte.
Bravo à celle qui a trouvé, sans le faire exprès, tout en le faisant un petit peu exprès.
Non, parce qu'elle a pris à l'autre.
Alors, ce R-A-U-2-F
Non, H-A-U-F. Mais comme Hoffmann, mais sans le man. Je ne sais pas du tout. Parce que je suis là dans du très ancien, j'ai lu tout ça dans l'enfance, alors je ne sais pas.
Non, mais on va s'interroger.
Apporte un jour un texte de Hoff.
Peut-être que l'autre n'existe pas. C'est possible que l'autre n'existe pas.
Peut-être qu'il n'existe pas. Et comme vous étiez petite, Hoffmann, c'était un nom un peu long, donc vous l'avez réduit en Hoff.
C'est que le début.
Des papouilles dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Strossard avec Anne de Pelchin et Pierre Mine. À télécharger sur franceculture.fr pendant un an, à réécouter 1000 jours à la page des Papous. Pour vos retours sur écoute dont nous sommes friands, vos remarques et autres questions, la rubrique commentaires, mais aussi notre page Facebook. Et si vous n'y êtes pas déjà, rejoignez-nous, c'est le plus sûr moyen pour communiquer. On se retrouve dimanche prochain à 12h50. Au revoir. Passez un bel après-midi sur France Culture en très bonne compagnie.